Bonsoir à tous, ceux et celles qui sont là et ceux et celles qui sont à distance. Donc je commence ce soir un travail que je dirais de longue haleine, qui va, comme vous allez voir, passer par des sources lointaines, mais qui a bien en vue, j'allais dire d'atterrir, pour prendre un mot qui a fait florès ces derniers temps. Simplement, reprendre contact avec le sol, eh ben, il va falloir que vous soyez un tout petit peu patient. Alors je vais commencer comme j'avais fait l'an passé, parce que finalement ça m'avait plu, par vous lire simplement quatre formules que je mets en exergue du séminaire de cette année. Donc le premier exergue, c'est une phrase de Paul de Tarse dans l'épître, la deuxième épître aux Corinthiens, qui est généralement, petite phrase, qui est généralement traduite par « la puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Mais j'ai regardé le texte grec et je propose une traduction pas du tout orthodoxe, mais qui m'intéresse beaucoup, consisterait à dire, en prenant plus littéralement les mots et l'absence d'article dans la phrase grecque de Paul de Tarse, la finalité d'une dynamique, c'est le sans-force. Voilà, traduction qui s'éloigne évidemment littéralement de la traduction proposée, la puissance s'accomplit dans la faiblesse. Moi je lis ça de la manière suivante, la finalité d'une dynamique, c'est le sans-force. C'est-à-dire, j'entends par là que la finalité de quelque chose qu'on fait, c'est de soutenir ou d'imposer des rapports de force, alors il n'y a pas de dynamique. C'est pour ça que la phrase de Paul m'intéresse beaucoup, à condition de la traduire comme je vous propose. Je ne vous la dis pas en grec, je pense que ce n'est pas la peine, mais si vous le souhaitez, je le fais. Bon. La finalité d'une dynamique, c'est le sans-force. Première citation en exergue. Et une deuxième, toujours de Paul de Tarse, cette fois dans l'Épître aux Romains. « Ne vous conformez pas au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. » Ne vous conformez pas au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Troisième phrase en exergue, je l'emprunte cette fois à Alain Badiou, dans son livre « sur Saint-Paul, il en sera beaucoup question, peut-être pas ce soir, mais en tout cas dans les séances suivantes. Donc, le livre de Badiou, c'est « Saint-Paul ou la fondation de l'universalisme », publié pour la première fois en 1998, et j'en extrais cette phrase, donc en exergue, « Toute particularité est une conformation, un conformisme. Il s'agit de soutenir une non-conformité à ce qui nous conforme. » Je commenterai tout ça au fur et à mesure. Et puis, dernière exergue plus littéraire ou poétique, dans mes lectures inattendues de la fin de l'été et de l'automne, il y a eu Victor Segalen, et en particulier un livre qui a été pour la première fois publié en 1929 sous le titre « Voyage au pays du réel », et qui est maintenant publié sous le titre de « Équipé ». Et il y a une petite note de Segalen qu'il a rédigée en marge de son manuscrit au chapitre 11. Je sais tout ça simplement parce que j'ai lu le livre, hein, avec les notes de l'éditeur. Bon. Et cette phrase m'intéresse beaucoup, je vais un tout petit peu la commenter, mais d'abord je la lis. « Péripétie, deux points. Une fois moi parti pour le réel, avec un R majuscule, péripétie, une fois moi parti pour le réel, j'y suis pris tout d'un coup et ne sens plus que lui. Peu à peu, très délicatement, les battements éclosent d'un arrière imaginaire. Au bout de quelque temps, je alternais, je J-E-U. Au bout de quelque temps, je alternais. Puis, triomphe de l'imaginaire sur le souvenir et la nostalgie du réel. » Donc, je pense que c'est difficile de juste entendre cette petite série de phrases sans avoir le texte sous les yeux, donc je commente un tout petit peu, en tout cas c'est ma façon de le lire. Je pense que Victor Segalen décrit trois étapes de ce qui peut arriver à ce que j'appellerais un supposé sujet, un sujet humain, un être au monde, un sujet. Bon. Il y a des péripéties et il arrive à ce sujet qu'il a été dans telle ou telle circonstance, lui, Victor Segalen, parti pour ce qu'il appelle le réel. Et quand il part pour le réel, quand il est parti pour le réel, il y est pris tout d'un coup et ne sent plus que lui. Il n'y a plus rien qui compte. D'abord, ça se fait tout d'un coup. Le réel vous saute à la figure tout d'un coup. Et à ce moment-là, vous ne sentez plus que ça. Péripétie, une fois moi parti pour le réel, j'y suis pris tout d'un coup et ne sens plus que lui. Puis, donc c'est moi qui l'ajoute, c'est pas dans le texte, peu à peu, très délicatement, les battements éclosent d'un arrière imaginaire. C'est-à-dire que la situation qui initie la petite note, moi parti pour le réel, ça se trouve en arrière de l'imaginaire. En tout cas, je comprends la phrase comme ça. Donc en deçà, si vous voulez, où c'est plus loin. Ça nous met plus loin que ce qu'on est capable d'imaginer, que l'imaginaire. Et au bout de quelque temps, peut-être on se remet de ce départ pour le réel qui fait venir un arrière-imaginaire, au bout de quelque temps, le jeu alterné, hein, c'est-à-dire on y est dans le réel, mais plus que, hein, on est aussi dans quelque chose d'autre, qui serait, je tue le suspense, j'appellerais ça la vie courante, voilà, qui n'est pas la vie réelle. Puis, triomphe de l'imaginaire sur le souvenir. Donc, je me souviens d'avoir été concerné par le réel. Puis, ensuite, il y a une espèce d'alternance chez moi. Puis, étape dans laquelle je me remets dans le monde ordinaire, l'imaginaire, à ce moment-là, prend le pas sur le souvenir. C'est-à-dire que je comprends que le fondement de cette affaire, c'est quelque chose dont on se souvient, mais que l'imagination, ou ce qu'il appelle l'imaginaire, c'est quelque chose qui, en fait, curieusement, fait barrage à ce moment, à ce sentiment tout d'un coup prenant du réel. Et ça se termine par nostalgie du réel. Voilà. Donc je laisse ça entre nous mijoter et ça va évidemment revenir au fil des séances. Je vous relis juste le texte. Péripétie, une fois moi parti pour le réel, j'y suis pris tout d'un coup et ne sens plus que lui. Peu à peu, très délicatement, les battements éclosent d'un arrière imaginaire, au bout de quelque temps, jeu alterné, puis triomphe de l'imaginaire sur le souvenir et la nostalgie du réel. Alors si jamais vous voulez retrouver ça dans le texte de Victor Segalen, dans l'édition disponible chez Gallimard sous le titre de « Équipé », il faut aller la chercher très très loin parce qu'en fait elle est dans les addendas. Page 139 en tout petit caractère. Voilà, fin des entêtes et j'attaque le sujet de cette année. Alors, la cause occasionnelle du séminaire que je commence ce soir, c'est un livre de quelqu'un que je ne connais pas, qui est tout à fait contemporain et qui s'appelle Olivier Boulnois. C'est un livre consacré à Saint-Paul et la philosophie. Je ne sais moi-même que très occasionnellement comment je me suis trouvé aux prises avec ce livre, comment il m'est venu sous les yeux. En tout cas, voilà quelque chose que je ne m'attendais pas à lire et que j'ai lu quand même. Bon. Et qui m'a sorti du projet que j'avais au printemps dernier, de faire suite au séminaire de l'année dernière, d'une certaine manière. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, il faut faire autre chose, et il faudra que je parle autant que je pourrai de l'urgence. Ce livre d'Olivier Boulnois m'en a rappelé un autre, que d'ailleurs il discute, et sur lequel j'avais envie depuis longtemps de travailler. Et cet autre livre, c'est un livre de Giorgio Agamben intitulé « Le temps qui reste », où il est beaucoup question, comme dans le livre de Boulnois, de Saint-Paul. Donc pourquoi il y a une actualité de Saint-Paul? Alors il y a depuis une vingtaine d'années, disons, vous aviez le livre d'Agamben, vous avez le livre d'Olivier Boulnois, il y a le livre que j'ai cité en exergue de Badiou, il y en a un autre de Jean-Michel Rey, etc., qui ne sont pas, a priori, sauf Boulnois, des livres qui sont écrits par des esprits religieux. Plutôt des laïcs. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe là? En tout cas, pour ce qui me concerne, la lecture, c'était à peu près quand c'est sorti, donc une bonne vingtaine d'années du livre d'Agamben m'avait toujours travaillé. Ça me restait quelque part dans l'esprit. Je me disais qu'il faudrait qu'un jour je travaille ce texte d'Agamben. Donc, je lis Boulnois, qui me rappelle cette envie de travailler sur le livre d'Agamben, et j'ajoute, depuis que j'ai fait la préparation de ce travail, un autre livre d'Agamben, que Adrien m'a forcé à lire, je ne sais plus trop quand, à la fin de l'automne, Profanation, petit recueil de textes, petit recueil d'articles, dans lequel Agamben m'aura fait comprendre plus qu'ailleurs ce qu'il propose avec son concept de désactivation. Donc je commence à entrer dans le sujet, c'est-à-dire, c'est pas ce que dit Agamben du tout, mais c'est pour vous mettre dans l'ambiance. Peut-être on pourrait, d'une certaine manière, se dire que la proposition d'Agamben, face au problème du monde d'aujourd'hui, il appelle ça désactivation. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors on entend évidemment par désactivation, a priori, en tout cas en français, ne pas trop s'activer, ou en tout cas ne pas s'activer dans un certain sens. Donc qu'est-ce qu'Agamben veut dire par ce concept de désactivation? Alors c'était pour moi une question. J'ai eu plusieurs hypothèses pour interpréter ce concept de désactivation, et je pense que la lecture de Profanation, justement, m'a, définitivement, ça serait beaucoup dire, mais en tout cas, éclairé. Bon, je vais vous en reparler dans quelques secondes. Donc, il va être question dans ce séminaire du livre de Boulnois, des deux livres d'Agamben, certainement, d'une certaine manière, du livre de Badiou, et je n'ignorerai pas non plus certains textes de Heidegger, auxquels Boulnois ne renvoie pas moins qu'Agamben. Les deux renvoient à peu près les mêmes textes de Heidegger, que je connaissais déjà par ailleurs. Mais, à la différence des précédents, les textes d'Heidegger, que je n'ignore pas, je ne les citerai pas directement, je les contournerai. Toute cette soirée va être méthodologique, en fait. Je commencerai à être vraiment dans le sujet que la prochaine fois. Mon intention est d'impliquer une pensée et une écriture, donc mon intention à partir de maintenant, ou aura été quand j'ai préparé ce séminaire, d'impliquer une pensée et une écriture que je connaissais de loin, mais que je n'avais jamais véritablement étudiée, donc celle de Paul de Tarse, la pensée et l'écriture de Paul de Tarse, que j'essaye de ne pas nommer systématiquement Saint-Paul, précisément parce que je compte bien faire de tout ça une lecture laïque. Mon intention est aussi de tester la consistance et la cohérence de certains de mes propres écrits, ça c'est à cause de l'âge qui me gagne. Je me demande parfois si je suis très cohérent, et ça m'inquiète, au cas où la réponse serait négative. Donc je me suis dit, peut-être que je pourrais essayer aussi moi-même, c'est pas très modeste, mais après tout c'est mon travail, de réinterroger mon propre cheminement. Donc tester la consistance et la cohérence de certains de mes propres écrits en les rapportant à des lectures ou des relectures qui ne sont pas réputées être de mon champ le plus habituel, puisque je suis réputé ne m'intéresser qu'au design, ce qui est vrai, mais pas seulement, je l'espère en tout cas, vrai. En tout cas, j'essaye de placer cet intérêt pour le design dans un intérêt pour le monde en général. La question globale est de savoir si c'est possible, ce que nous pouvons nous estimer fondés à faire dans la situation qu'on dit la nôtre, d'un monde menacé de devenir invivable. Donc c'est la question globale, hein. Savoir si c'est possible, ce que nous pouvons nous estimer fondés à faire dans la situation qu'on dit la nôtre, d'un monde menacé de devenir invivable. Ce soir, je vais interroger ce que je viens de souligner en relisant ma phrase, la situation qu'on dit la nôtre. Qu'est-ce que ça veut dire, nous, bon. Notre monde. Je voudrais montrer que cette question, qu'est-ce que nous pouvons nous estimer fondés à faire dans la situation qu'on dit la nôtre d'un monde menacé de devenir invivable, je voudrais montrer que cette question n'est pas ainsi précisément dite, ou dite de manière suffisamment satisfaisante. En effet, de quel monde s'agit-il ? Le monde, notre monde est menacé de devenir invivable, mais de quel monde parlons-nous ? Alors, on nous dit beaucoup, en tout cas j'entends beaucoup dire, que ce qui est en question, c'est l'habitabilité de la Terre. Mais quelles opérations sur cette Terre la rendraient inhabitable ? Le fer que nous entendons y mener, s'il s'agit de la sauver comme habitat, et celui qui l'a mis par hypothèse dans cet état où elle nous menace, ces deux fers-là, le fer que nous aurions à faire pour la rendre de nouveau habitable, si tant est qu'elle ne le soit plus, et celui que nous aurions fait pour la rendre dans l'état où elle est, où nous sommes menacés de ne plus avoir sur Terre d'habitat, ces fers-là, il faut les spécifier. Ce fer, qu'est-ce que veut dire ce fer ? Il faut le spécifier. Est-ce que ce sont nos actions ou nos constructions qui sont en cause ? Et je dirais que j'ai presque tout dit en formulant la question comme ça. C'est-à-dire, si la Terre est en train d'être inhabitable, qu'est-ce qui l'a rendue telle dans notre fer humain en général ? Est-ce que c'est quelque chose qui est du registre de l'action, c'est-à-dire nous aurions mené de mauvaises actions, ou est-ce que c'est quelque chose qui est du registre de la construction, c'est-à-dire nous aurions fabriqué des choses que nous aurions mieux fait de ne pas fabriquer ? Mais c'est peut-être pas la même chose, le registre de l'agir et le registre du construire. Ça va peut-être pas ensemble, voilà. Et il faut examiner tout ça. Donc, est-ce que ce sont nos actions ou nos constructions qui sont en cause ou à mettre en cause, ou bien, au contraire, est-ce que ça n'est pas un certain manque, un certain déficit dans notre opérativité ? Est-ce que ce n'est pas parce que, on peut pas dire, nous avons trop construit, par exemple, mais peut-être on peut dire... le problème, c'est pas que nous ayons trop construit, c'est que dans nos constructions, il manque quelque chose qui serait compatible avec l'habitabilité ou qui le serait davantage. Je voudrais montrer, mais il faudra être patient, ça sera long, je voudrais montrer que ce que le terme de construction implique, dans ce que je viens de dire, construire, je voudrais montrer que ce que le terme de construction implique n'est pas, n'aura pas été, en tout cas pas assez, à mon sens, considéré, sauf en quelques cas qui n'intéressent guère, malheureusement, les penseurs les plus commentés. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que, alors c'est pas spontané, mais ça nous vient vite à l'esprit quand on entend dire « qu'est-ce qu'on peut faire ?» Voilà. On interprète en termes d'action et pas en termes de construction. Et que c'est peut-être là qu'il y a une défaillance, c'est que nous pensons trop vite à agir et pas assez à construire. Et que cette affaire-là, les constructions, ce que j'appelle les constructions, je fais comme je peux là pour le moment, eh ben c'est pas quelque chose qui est tellement commenté. C'est comme si ce qui comptait pour les humains, c'était d'agir, alors que ce qu'ils ne cessent de faire dans le monde, c'est y construire des choses. Et ça, c'est pas, à mon avis, assez pensé. Je veux pas dire qu'il y a aucune réflexion jamais menée sur ce sujet, bien entendu, ça serait faux. Mais il me semble qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un déficit de pensée autour du construire. Donc, c'est mon fil directeur pour 6 séances. Alors, fin de l'introduction de l'introduction. Je suis toujours dans l'introduction, mais je fais un petit pas pour ce soir. Et j'en viens donc à Grand-Belle. Il me semble que sur ce paquet de questions que je viens de vous indiquer, Agamben propose, en guise de réponse, que faire ? Il propose une certaine désactivation. Alors, qu'est-ce que c'est que cette désactivation chez Agamben ? Alors, je pense qu'il faut éviter un contresens. Son objet à la désactivation. Alors, je ne sais pas, peut-être toi tu saurais me dire, mais parfois dans les textes on lit désœuvrement et parfois désactivation, c'est pas le même mot en français. Est-ce que chez Agamben il s'agit exactement de la même chose? Je ne suis pas tout à fait sûr. Je prends plutôt les deux mots comme traduisant différemment la même chose. En tout cas, disons désactivation, puisque les textes que j'ai en tête, en tout cas dans la traduction française, disent désactivation. Donc l'objet de la désactivation d'Agamben, ou ce qu'il appelle désactivation, qui serait une espèce de solution, si vous voulez, hein, que faire? Désactivons. Bon, je simplifie, mais enfin, l'objet de la désactivation, ça n'est pas de ne rien faire, mais c'est de se mettre dans une situation d'usage que Agamben qualifie de sans fin. Bon, alors, c'est pas l'interprétation spontanée de ces phrases en français, hein, se mettre dans une situation d'usage sans fin. Qu'est-ce que ça veut dire, user sans fin ? Il n'y a pas forcément d'ailleurs de complément à cette expression. Alors, de ce que ça veut dire, la désactivation, l'usage sans fin, le sans fin, sans finalité, ou peut-être sans fin au sens de sans arrêt, allez savoir, bon, en tout cas en français c'est ambigu, de ce genre d'usage, l'usage sans fin ou la désactivation, justement le petit recueil d'articles Profanation dit clairement, alors ça pour moi ça a été, il m'a sauté aux yeux. Dans ce petit texte-là, Agamben dit clairement que le jeu, le jouer, le jeu, serait, en dernière analyse, la meilleure façon d'exprimer ce dont il s'agit dans l'usage sans fin ou la désactivation. Le jeu. Bon. Alors, il prend un exemple que j'ai trouvé très éclairant, en tout cas pour moi. Quand un chat joue avec une pelote, il use, dit Agamben en substance, des mêmes moyens comportementaux que lorsqu'il chasse une souris. Sauf que, vous comprenez que quand il chasse une souris, il est tueur, et quand il joue avec une pelote, c'est du jeu, et je vais le dire dans une seconde, ça au fond, ça n'a rien de grave. Le jeu est sans conséquence, la chasse est évidemment de grande conséquences pour l'état du monde autour du chat. Il y avait une souris, il n'y en a plus. Bon. Mais c'est la même chose, c'est les mêmes moyens que le chat met en œuvre, active, quand il chasse une souris et quand il joue avec une pelote, sauf que, dans le cas de la pelote, c'est un usage sans fin. C'est une désactivation de la chasse. Les mêmes moyens comportementaux, mais sans fin. La fin étant dans le jeu désactivé, il ne peut plus rien se produire, ou il ne pourrait plus rien se produire de grave. Alors, est-ce que cela veut dire, en substance, que si nous nous comportons en prédateurs du monde, c'est faute d'y être au monde dans un esprit assez joueur. Est-ce que je dois comprendre la proposition d'Agamben de cette manière ? Nous ne sommes pas assez joueurs. Je pourrais inverser la question que je viens de poser et dire est-ce que ça veut dire que nous serions, à l'inverse, comme emportés et prédateurs pour cela ? Nous serions emportés par un excessif esprit de sérieux. Voilà. Il y a très longtemps. Je me souviens, et c'était pas dans ces locaux d'ailleurs, mais c'était pas loin d'avoir suivi des conférences d'un esprit, d'un grec qui était très dynamique, qui s'appelait Kostas Axéos, et dont c'était l'affaire, le jeu. Je me souviens de ces cours-là, et ça m'est revenu en mémoire en lisant Profanation d'Agamben, avec l'exemple du chat qui joue. Peut-être qu'Agamben veut dire ça, les humains sont devenus trop sérieux, voilà, et avec le sérieux, le manque d'esprit de jeu, c'est la prédation qui l'importe. Voilà. Bon, donc ça serait ça la ligne, il faudrait que nous apprenions à jouer davantage avec nos propres moyens. Avec ce que nous appelons nos moyens par ailleurs. Nous ne jouons pas assez avec ça, nous les employons sérieusement à des fins qui sont finalement destructives. Alors que dans le jeu, vous voyez l'exemple du chat, la pelote évidemment, il peut toujours jouer avec, ce qui ne sera pas le cas évidemment de la souris. Alors je me demande si toute cette analyse d'Agamben que je viens d'essayer de restituer, que je prends donc dans le recueil d'articles qui s'intitule Profanation, je me demande si toute cette analyse ne peut pas être retournée. Que Agamben ait choisi le cas du chat, justement le cas du chat, pour illustrer son propos, est-ce que ça n'a pas quelque chose d'étonnant ? Car à moi, il me semble bien que lorsque le chat chasse, il joue aussi ou encore. Vous avez déjà observé un chat qui chasse. Tout le monde a regardé ça. Et en fait, je me demande si la dichotomie, le chat chasse d'un côté, il joue de l'autre. Dans un cas, il est prédateur, dans l'autre, il est donc joueur et c'est pas grave. Je me demande si cette dichotomie, dans l'exemple même que prend Agamben, est fondée. Et il me semble que non. Car il me semble que lorsque le chat chasse la souris, il lui laisse, et à plusieurs reprises, sauf erreur de ma part, des apparences d'échappatoire possibles. Il joue avec elle, en lui laissant penser qu'elle peut se sortir de ses griffes et de son emprise. Il joue avec elle, et en même temps, il la chasse. Et en fait, comme vous savez, la souris n'en sortira pas. Elle est elle-même jouée, et le chat se joue d'elle dans une chasse qui n'a pas pour seule justification, comme on peut le voir dans le cas de l'animal domestiqué, la fonction nourricière. Un chat domestique montre, à mon avis, à l'évidence, qu'il ne chasse pas nécessairement pour se nourrir, autrement dit parce qu'il en aurait besoin. Le chat est parfaitement nourri puisqu'il est domestique, et cependant, il joue en chassant la souris. Bon. Donc faites les comparaisons, je pense que vous avez compris. Il y a peut-être parmi nous des chats joueurs, parmi nous les humains, c'est-à-dire qui sont des prédateurs sans justification qui serait inscriptible dans l'ordre de la nécessité. Il faut bien pour se nourrir. Voilà. Donc, le chat joue et chasse en même temps et il n'en a pas besoin pour se nourrir. Ou pas toujours, quand il est justement domestique. Donc il me semble que ça retourne l'exemple d'Agamben. Ça m'éloigne, si vous voulez, l'exemple que Agamben prend lui-même pour éclairer son concept de désactivation, et par conséquent, ça m'écarte du concept de désactivation d'Agamben. Donc je dois chercher la réponse à ma question « que faire ?» Enfin, si c'est ma question, c'est pas tout à fait ma question. Ma question, c'est « qu'est-ce que faire ?» J'y reviendrai, mais en introduction, qu'est-ce qu'on peut bien faire ? Voilà. Je vais m'écarter de la désactivation. Or, comme Agorben fonde son concept de désactivation sur une lecture de Paul Gothers, il faut que je fasse le travail jusqu'au bout et que je lise Paul Gothers autrement qu'il ne le fait lui-même. Alors, si je m'attarde sur cette affaire de chat qui chasse et qui joue en même temps, c'est parce que je pense de plus en plus que nous sommes à notre tour joués comme jamais par l'économie des objets de la dernière génération technologique. D'ailleurs, nous sommes, d'une certaine manière, ou en tout cas, certains d'entre nous, beaucoup d'entre nous, sont dans la situation de la souris. Nous sommes joués comme jamais par l'économie des objets de la dernière génération technologique. Alors, je dis bien par l'économie de ces objets, je ne dis pas par ces objets en tant que tels. En tant que tel, c'est le souvenir de Heidegger, je vais vous préciser ça un petit peu. Donc, nous sommes joués par l'économie des objets de la dernière génération, mais peut-être pas par eux en tant que tels. C'est justement le fait que nous n'ayons pas affaire à nos objets, en tout cas ceux de la dernière génération, en tant que tels, qui me soucie. Mais que nous ayons affaire à eux en tant que ce seraient des instruments de chasse, d'une certaine manière, de nous. Voilà. Il y va, me semble-t-il, d'un abus. Alors, je lâche le mot abus. Notez bien, ça va revenir tout à l'heure. Question de l'abus. Bon, il me semble que les objets... avec lesquels, ou peut-être auxquels nous essayons d'échapper dans la vie, pour être mieux. Voilà. Ces objets qui, d'une certaine manière, vous comprenez les métaphores que je suis en train de nous chasser, d'une certaine manière, du fait de leur économie, pas eux en tant que tels, mais d'une certaine façon, les concernant d'être mis auprès de nous, pour nous, il y va sans doute dans cette affaire d'un abus qui est performé à l'occasion de leur usage ou de leur mise en service. C'est-à-dire, pour que la prédation nous concernant ait lieu, il faut que nous nous mettions en relation de service ou d'usage avec ces objets qui, non pas eux en tant que tels, mais leur économie, d'une certaine manière, nous chassent. Alors, cet abus performé à l'occasion de l'usage ou de la mise en service des objets technologiques de la dernière génération, cet abus consiste en ceci, me semble-t-il, que d'une part, ils ont une fonction cachée. Alors, je traduis dans mon langage un service industrié. Donc, je vais vous refaire l'étymologie de l'industrie dans un instant. L'abus consisterait en ceci que d'une part, ils ont une fonction cachée ou un service pas franchement présenté, mais industrié. Ils ont une fonction cachée, un service industrié dans leur fonction même. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, je me sers de ce qu'on appelle un smartphone, et que dans la façon dont je m'en sers, en réalité, dans la fonction de service qu'il a pour moi, c'est un téléphone, c'est la façon de consulter une carte pour m'orienter dans une ville que je ne connais pas, etc. Pendant qu'il a cette fonction manifeste d'usage pour moi, il sert à une autre fonction qui n'est pas pour moi, qui est pour le chat qui me chasse, hein, qui est l'entreprise qui récolte un certain nombre d'informations pour la capitaliser, enfin, etc. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin sur l'économie Google. Donc, l'abus consisterait en ceci, donc ils ont une fonction cachée dans leur fonction et dans leur service apparent, et il consisterait aussi, d'autre part, dans le fait que cette fonction et ce service caché ne sont pas, loin s'en faut, le moindre motif de leur présence auprès de nous. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que ces objets sont là auprès de nous ? Est-ce que c'est le service qu'ils sont supposés nous rendre, ou est-ce que c'est le service qu'ils sont supposés rendre à l'industrie qui les met auprès de nous pour qu'apparemment ils nous servent ? Ils se réalisent, ces objets, sans... elle se réalise ses fonctions sans se manifester, raison pour laquelle je viens une fois de plus, pour ce qui me concerne, d'évoquer la notion d'industrie en faisant particulièrement entendre le sens du préfixe dans ce mot, indu, vient du latin endo, et signifie de l'intérieur, ce que j'ai toujours rapporté dans mon travail aux notions de secret et de sécrétion. Qu'est-ce que c'est que l'industrie foncièrement, je pense que pas beaucoup de gens ont fait ce travail-là, je l'ai un peu fait, de pister le mot industrie depuis, je dirais pour la mémoire que j'ai tout de suite, au moins les textes de Sénèque dans l'Antiquité. Là, je regarde, c'est un travail, il faut de la patience, mais c'est pas très compliqué. Vous regardez à chaque fois que le mot apparaît, puis vous essayez de comprendre le contexte dans lequel ce mot apparaît, et vous vous demandez quel est le sens constant. Bon, évidemment, l'industrie dans l'Antiquité, c'est pas l'industrie, la grande industrie du 19e siècle. Pourtant, le mot est toujours là. Et quel est son point commun? Parce que je crois que c'est Habermas qui appelle ça la signature d'un concept. Quelle est la signature de ce concept? Eh bien, il me semble que la signature de l'industrie, si c'est un concept, c'est que c'est quelque chose qui opère endo, hein, de l'intérieur, c'est-à-dire c'est la sécrétion qui émane de quelque chose qui tient, qui reste au secret. Donc il y a quelque chose, les objets, si vous voulez, de la dernière génération sécrètent un service pour nous, mais il y a quelque chose qui reste endo, indu, strié, dans leur sein même, à l'intérieur, voilà. Et que c'est là, finalement, que la raison d'être de l'objet, la raison principale d'être de l'objet, se tient. Sa raison économique, en tout cas. Donc quelque chose de la technique et de ses possibilités n'est pas affranchi dans toute cette affaire, et c'est ce qui permet à la disposition du dispositif économique global de ne pas paraître en tant que tel. Est-ce que c'est à peu près clair, ce que je vous dis? Je continue. Alors, à l'issue du raisonnement que je commence à entamer ce soir, j'espère que vous comprendrez les raisons que vous comprendrez, parce que je les aurai à peu près bien dites. Hein. Je ne mets pas du tout en doute votre capacité de comprendre. Hein. Je mets en doute ma capacité à faire comprendre. Donc j'espère que se comprendront les raisons qui me conduisent à insister tant que je le fais sur cette idée d'une parution des objets en tant que tels. J'espère que ça sera clair, pas ce soir, mais dans quelques temps. Elles engagent ces raisons que j'ai d'insister sur la parution des objets en tant que tels. Donc, si je suis clair, vous comprenez que les objets, de grande consommation, qui occupent beaucoup nos usages, comme on dit, ces objets ne sont indus striels, hein, quelque chose de la racine du endo, c'est-à-dire en fait leur cœur, leur secret, évidemment par définition c'est un secret, n'apparaît pas. Voilà. Nous n'avons pas affaire à eux en tant que tels, hein, il y a quelque chose qui n'est pas franc ou affranchi dans cette affaire. Donc ça m'intéresse beaucoup d'essayer de préciser qu'est-ce que ça peut être Un objet que nous fréquenterions en tant que tel, franc. Pas nous qui serions francs, mais l'objet qui serait franc avec nous. Une économie, par conséquent, est-ce que ça existe, une économie des objets qui puisse être franche avec ceux qu'on appelle les usagers? Ou bien est-ce que l'économie implique l'industriation de quoi que ce soit? Alors, cette affaire, j'espère qu'on pourra comprendre dans quelques temps les raisons qui me font parler ou espérer ou chercher s'il est possible qu'existe une parution des objets en tant que tel. Donc, cette façon de dire engage une autre lecture d'Agamben, lecture très singulière d'Agamben, puisque c'est, alors je ne sais pas si, oui, il y a peut-être, oui, encore parmi vous quelques anciens étudiants qui se souviennent peut-être d'un cours que j'ai fait pendant plusieurs années. Je l'aimais bien, moi, ce cours-là. Alors je ne sais pas les étudiants, mais moi je l'aimais bien. Il consistait à lire un livre d'Agamben qui s'intitule « L'ouvert », dans lequel, en fait, Agamben lit un cours de Heidegger, qui doit être daté 1929, je n'ai pas vérifié, mais je crois que c'est à cours de Heidegger de ces années-là, dans lequel Heidegger lisait lui-même les textes d'un des fondateurs de l'écologie, qui s'appelait Uexküll. Hein, donc vous avez un emboîtement, hein, Agamben lit Heidegger qui lit Uexküll, fondateur parmi d'autres de l'écologie, et dans lequel cette expression est clé. Pouvoir percevoir des objets en tant que tels. Et donc, toute cette façon que j'ai de parler engage la lecture d'Agamben lisant Heidegger, lisant Uexküll, et mettant au point une idée que je définirais aujourd'hui comme celle d'une perception sans fin. Je pense, alors tout ça est encore mystérieux, bien entendu, mais comme je fais l'hypothèse qu'on va se revoir, je vais tâcher de préciser. Peut-être qu'un objet franc, enfin un objet qu'on pourrait percevoir en tant que tel, c'est aussi, c'est l'hypothèse que je vous suggère. Pour le moment, ça n'est qu'une hypothèse. Peut-être qu'un objet qu'on pourrait percevoir en tant que tel, c'est aussi un objet qu'on pourrait percevoir sans fin. Voilà. C'est-à-dire dont, d'une certaine manière, on ne serait jamais satisfait. Alors, mais en un sens très, très particulier du mot satisfait, de l'avoir dans notre champ de perception. Alors, satisfait, je le traduis littéralement, satis, ça veut dire assez en latin, faire assez. Voilà. La perception n'en aurait jamais fait le tour. On ne l'aurait jamais assez perçu. C'est-à-dire, il attendrait de nous que nous le percevions encore, cet objet. Alors que peut-être nombre d'objets, qui sont justement des objets de grand usage pour nous, ce sont des objets que nous ne percevons plus. Dont le rapport qu'ils ont avec nous ou nous avec eux est tel que, au fond, ce sont des suppléments de notre corps dont nous ne percevons même plus la présence auprès de nous. Donc il y a peut-être un lien à faire entre percevoir quelque chose en tant que tel et percevoir sans fin. Et percevoir sans fin, voulant dire aussi percevoir pour rien. Par exemple, je peux percevoir le téléphone, le smartphone que j'aperçois là-bas, avec comme seule fin de mettre la main dessus, de l'empoigner, de le capturer, etc., pour mon service. Voilà. Mais si c'est un objet qui entre en tant que tel, dans ma perception sans fin, je ne vais pas me précipiter sur lui. Voilà. Nous allons rester dans une sorte de face à face. Peut-être que ça nous manque, justement, ou peut-être que ça manque au monde, que ça a à voir avec son hypothétique, enfin hypothétique, l'hypothèse de son inhabitabilité. Le fait qu'au fond, nous ne percevions pas assez les objets qui sont auprès de nous en usage. Alors, cette perception, à cette perception, excusez-moi, en tant que telle, etc., à cette perception qui n'est pas davantage action que je, hein, seulement percevoir, pas agir avec, pas jouer avec, seulement percevoir à ça, à cette perception en tant que telle, etc., je pose que l'humanité est a priori ouverte. C'est-à-dire qu'un être humain, pour moi, alors ce pour moi est très prétentieux, mais en même temps c'est une façon de dire je n'en suis qu'à l'introduction. Disons, pour l'instant, je pose que l'humanité est a priori ouverte à ça, au percevoir sans fin des objets en tant que tels. Si on n'est plus dans cette situation, c'est que nous sommes fermés, nous ne sommes plus ouverts. C'est pour ça que le titre d'Agamben est très intéressant, hein, l'ouvert. Hein. Si nous ne sommes plus dans cette situation, c'est que nous nous sommes fermés ou que nous avons été fermés. Enfin bref, il y a de la fermeture et qu'on n'est plus a priori, mais a posteriori, c'est-à-dire au bout d'une histoire. Je pose que l'humanité est a priori ouverte à la perception sans fin en tant que telle, mais qu'elle peut aussi, et en effet cela aura été le cas, s'y trouver fermée. Nous sommes des êtres capables d'être ouverts à la perception et fermés. à la perception. C'est peut-être une partie du problème. Ma question est de savoir ce qui nous aura autorisé à pareille fermeture. Comment se fait-il que nous nous soyons autorisés à nous fermer à la perception en tant que telle, etc. Ce sera ça ma question. Qu'est-ce qui nous a autorisé à pareille fermeture? Qu'est-ce qui fait, autrement dit, nous nous sommes autorisés, c'est-à-dire nous avons trouvé, je ne sais pas, des manières de dire, des textes, des discours, etc., qui au fond nous disent en substance, ou nous croyons qu'ils nous disent en substance, tu peux te fermer à la perception en tant que telle. Sers-toi donc du monde. Voilà. Tu peux. Nous sommes autorisés à ne pas nous en tenir au percevoir le monde et les objets qu'il contient en tant que tel. C'est-à-dire, nous nous sommes trouvés autorisés à manquer à une dimension de la perception que, je dirais, vous vous en doutez, proprement esthétique. Alors, je ne prends pas le mot esthétique au sens de la discipline esthétique, etc. Je le prends au ras de sa signification étymologique, aesthésis en grec, pour traduire par sensibilité. Autrement dit, nous nous sommes trouvés autorisés à nous fermer à la perception en tant que telle des choses dans le monde, c'est-à-dire nous nous sommes fermés à la dimension esthétique de notre être au monde, c'est-à-dire à notre sensibilité. C'est-à-dire, d'ailleurs, il me semble que c'est cohérent, je veux dire, si vous reprenez toutes les métaphores, évidemment, le chat qui chasse, il n'est pas sensible à la souris. Voilà. Il ne l'aperçoit pas en tant que tel. C'est d'ailleurs ce que disait, ce qu'explique Wexkull, que lisait Heidegger, que lit Agamben. Enfin, tout ça s'emboîte. Si vous voulez que je sois plus clair, je me poserai des questions tout à l'heure. Je formulerai peut-être pas trop mal tout ça si je disais que je me demande ce qui nous a pris de nous fermer à cette dimension que j'essaye de décrire là, de seulement percevoir le monde et de nous en tenir à ça. Comment nous sommes-nous autorisés à cette fermeture au point d'être dans un usage pervers ou perverti des objets que nous mettons au monde? Alors, objet pervers, usage pervers ou perverti, c'est une allusion pas du tout modeste à mon livre La tentation du service. Dans le dernier chapitre, j'ai essayé de proposer cette notion-là autour de laquelle je tournais depuis longtemps, mais je n'avais pas trouvé la formule, et il me semble que là, je l'ai trouvé, donc les objets pervers. Je pense que les objets de la dernière génération technologique sont des objets pervers. Le pervers, c'est celui qui fait semblant de vous adresser une demande et qui, en réalité, attend de vous autre chose que ce qu'il semble vous demander. Donc, toute adresse du pervers à un autre pervertit l'adresse. C'est-à-dire, il faut la retourner. Les objets pervers sont des objets apparemment serviables pour nous, qui nous font des offres. Tu peux téléphoner facilement. Tu ne te perdras plus dans les villes, tu as tes cartes routières sous la main, etc. Donc, et en fait, c'est pervers. Pendant que nous nous servons de l'objet, en réalité, l'économie de l'objet se sert de nous. C'est pervers. Voilà. Donc, je pense que cette perversion-là, elle est fondée sur une économie des objets qui tient parce que nous sommes autorisés, par ailleurs, nous nous sommes autorisés, d'une manière ou d'une autre, à nous fermer à la perception en tant que telle du monde. Bien. Alors, ça serait la fin. Alors, j'avais l'introduction de l'introduction, et là, vous avez la fin de la première partie de l'introduction. J'en ai une deuxième partie de l'introduction. J'y vais ? Donc, si j'ai été à peu près clair, j'en suis là. Alors, je reprends les mots parce que bon, alors ce séminaire, les autres aussi, mais alors celui-là, je l'ai écrit. Hein. Bon. Écrit, réécrit, gommé, enfin bref. Donc, comment nous sommes-nous autorisés? Donc, c'est comme ça que je pose la question, hein, qui ne doit pas maintenant contenir en elle-même de difficultés de langage particulières. Comment nous sommes-nous autorisés à cette fermeture au point d'être dans un usage pervers, etc. Donc vous avez bien entendu cette question, comment nous sommes-nous autorisés? Donc je voudrais, donc étape supplémentaire de mon introduction globale du séminaire, interroger ce « nous ». Nous, nous sommes autorisés. Je voudrais interroger cette manière de dire, et en m'interrogeant sur cette manière de dire, je pense que je vais vous donner la clé de la méthode que je vais suivre, qui est la même, qui sera la même dans ce séminaire que partout ailleurs dans mon travail, à savoir, qu'est-ce que j'aurais fait dans mon travail et qu'est-ce que je vais faire dans ce séminaire ? Examiner des formulations que, d'une part, le fait de les avoir lues et relues, pas moi seulement, bien entendu, je vais examiner des formulations qui ont été lues et relues par toute une série d'humains. Donc, examiner des formulations que, d'une part, le fait de les avoir lues et relues traite en autorité. Qu'est-ce que c'est, finalement, qu'une autorité intellectuelle ? C'est un discours qui est dit et qui a comme... Enfin, je ne sais pas si effet, ce n'est pas le bon mot. En tout cas, le fait est qu'après, c'est lu et c'est relu. Donc, à partir du moment où il y a ça, il y a quelque chose comme une autorité, un auteur. Un auteur, c'est Bourdieu qui faisait remarquer ça. Hein. Les mots auteur, autorité, autorisation ont les mêmes champs sémantiques. Bon. Donc, qu'est-ce que je vais faire méthodiquement? Examiner des formulations que, d'une part, le fait de les avoir lues et relues traite en autorité, et qui, d'autre part, ont constitué ce que j'appelle notre pensable. Alors, le pensable, pour moi, c'est pas la même chose que le penser. Je veux dire par là que dans les textes qui sont des textes d'auteurs, qui font autorité, pour nous, alors je viens à nous dans quelques minutes, vous inquiétez pas, dans les textes qui font autorité pour nous, des textes d'auteurs, voilà, je pense qu'il y a toujours, et c'est aussi pour ça que ce sont des autorités, c'est pas seulement parce qu'on les lit et relit, c'est aussi parce qu'ils contiennent quelque chose qui demeure dans l'ordre du pensable, c'est-à-dire qui n'a pas encore été pensé. Vous pouvez lire, pourquoi vous pouvez lire des vieux textes? Voilà. Parce que dans ces textes réside une puissance de pensée qui n'a pas encore été lue. Et donc, il faut aller lire encore. Voilà. En tout cas, on peut les relire. Voilà. Il y a du pensable. Alors, je vais faire ça, examiner des formulations, donc des textes, qui sont à la fois, pour moi, de l'ordre de l'autorité et de l'ordre du pensable. Il reste quelque chose à penser là-dedans. Il me semble qu'il reste quelque chose à penser là-dedans. Alors, cet examen que je vais faire, examiner des formulations, évidemment, il ne prétend pas à être complet et universel, d'autant que, comme je viens de dire, le pensable excède de toute façon le tout à fait pensé. Je suppose en fait deux choses. La première, qu'il reste quelque chose à lire dans ce qui a été dit, dans ce que nous nous sommes dit, dans ce que nous avons en mémoire, dans les textes dont nous cultivons la renommée et qui, partant, peuvent être dits constitutifs ou sources de notre culture. Donc, je suppose ça, que dans les textes constitutifs de notre culture, j'ai encore pas clarifié le nôtre, hein, j'y viens, il reste quelque chose à penser, ils sont pas morts. Voilà. Nous les avons en mémoire, nous les cultivons, ils définissent notre culture, mais ils sont pas morts parce qu'il y a encore du pensable là-dedans, et ce pensable, évidemment, nous regarde. Nous concerne. Et la seconde supposition que je fais dans cette affaire, c'est que cela même, ce qui a été dit, ce que nous nous sommes dit, ce que nous avons en mémoire, bref, notre culture n'est pas de tout lieu. Alors, aucune culture n'est de tout lieu, en tout cas pas la nôtre, en tout cas pas la mienne. Dans nous, il y a moi. Eh bien, moi, je n'ai pas une culture universelle. Et je pense qu'aucun nous, d'ailleurs, aucun de nous, aucun nous n'a une culture universelle. Voilà. Donc, il faut se mettre ça, je pense, bien en tête pour relativiser tout ce que je veux dire à partir de maintenant. Il faut le relativiser. Je ne vais rien dire de vrai absolument. Voilà. Je ne veux dire que des choses qui sont relatives à des lectures, qui ne peuvent pas être des lectures universelles, qui sont des lectures forcément limitées en nombre et quelque part situées. Donc, ce que nous avons en mémoire, notre culture n'est pas de tout lieu, et quoique formulée peut-être pour tout le monde, parfois pour l'universel, ou dans l'intention de concerner le tout du monde, alors ces mots tournent autour, j'y reviendrai peut-être, catholique, en grec, kat, holon, ça veut dire selon le tout, pour quelque chose qui est adressé à tous, qu'on a traduit longtemps après par universel, message universel, etc., catholique, adressé à tous. Donc il y a des gens qui ont envisagé de parler pour tout le monde, pour le tout du monde. Par exemple, c'est le cas de Paul de Tars, dont on va tôt ou tard regarder justement les formulations. Le fait qu'il y ait l'intention de parler pour tout le monde ne signifie évidemment pas que ce discours soit ipso facto catholique au sens propre du mot ou universel par traduction. Donc de fait, rien n'est dit à tout le monde, même quand ceux qui disent, les autorités, ont l'intention de parler pour tout le monde. En conséquence, le « nous » dont mes propos ne cessent de se faire l'écho et où je me situe est inévitablement restreint. Je ne sais pas s'il ne faudrait pas de l'eau, parce que je pense que je ne vais pas m'en sortir. Je ne veux pas trop parler pendant qu'elle est gentiment partie chercher de l'eau. Donc j'en suis là. Dire que le « nous » où je me situe est inévitablement restreint. Et je peux ajouter « je ne pense pas, je ne saurais penser de partout et pour partout ». Et je pense que personne ne peut faire ça. Penser de partout et pour partout. En l'occurrence, donc, ma situation, mettons de penseur, procède d'une aire de pensée localisée. Je ne pense pas, je ne parle pas de partout et pour partout, je pense, je parle depuis une aire, aire, une surface de pensée localisée. Et c'est ça qu'il faut que je précise. Maintenant. D'où, pour le dire, une phrase qui était à la mode, et quelle, d'où tu parles, toi ? Voilà. D'où je parle, moi ? Voilà. Bon, alors je l'attends quand même pour continuer. Qu'est-ce qu'on fait ? On a une petite discussion quand même en attendant ou on médite.
Une seconde à l'autre. Si tu vois, mais Antoine dit qu'ils entendent très bien, que c'est parfait.
je sais pas. je suis quand même gêné. Ici, ça va, mais pour tous les gens qui sont loin, là, que je... Ah ben voilà. Non, mais c'est de ma faute, j'aurais dû prévoir. J'aurais dû prévoir. Merci beaucoup.
Je vous en prie. Une petite pomme blanche. J'ai un trouvé présentable.
Ça m'a donné un souci. Bien. Donc, je ne saurais penser et parler de partout et pour partout, comme d'ailleurs je crois quiconque. Donc, ma situation procède d'une aire de pensée localisée, et cette aire de pensée localisée, quelle est-elle? C'est ce que je vais préciser, qui sera peut-être le dernier point pour ce soir. Alors, en première approche, cette aire de pensée... C'est celle latine et romaine par sa langue. Donc je me situe, hein, d'où je parle. En première approche, je parle alors, avec une langue, où je lis une langue qui est habitée dans son histoire par une autre, latine et romaine, sur laquelle, alors je vais vite, pour aller vite, sur laquelle des textes de Proudhon repris par Simone Veil ont attiré mon attention dans la période récente. En fait, ça s'est passé tout simplement comme ça, c'est-à-dire, je lis Olivier Boulnois, ça me fait penser à un autre livre que je lis ou relis, qui me fait penser à... etc. Et puis, au hasard aussi, des lectures. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je lis ou relis un texte de Proudhon. Et puis, j'étais dans une phase aussi au Simone Veil. Donc, c'est juste ça, au départ. C'est pas très rigoureux. Et c'est très... égocentré, hein. Je me demande d'où je parle. Bon, et en l'occurrence, pendant que je préparais ce séminaire, eh bien, j'avais ça en tête, les textes que je vous ai dit tout à l'heure, et puis aussi d'autres textes de Proudhon et de Simone Veil. Le hasard des choses fait que Simone Veil cite Proudhon, justement là où je m'étais arrêté dans ma lecture de Proudhon. Bon, ça fait beaucoup quand même de coïncidences. Bon. Donc, et... Simone Veil dit des choses sur le latin. Proudhon, vous allez voir, fait un commentaire sur une formule latine qui n'est pas rien dans l'histoire de notre économie. Bon, je parle de là. Je vais examiner un certain nombre de formules qui font autorité, qui sont mémorables dans notre culture, notamment qui impliquent le monde latin et le monde romain. Cette langue, qui serait la langue en amont, si vous voulez, de celle que je parle, ou que je lis, cette langue aura été celle, comme vous le savez, le latin, cette langue aura été celle d'un empire qui a fait sienne une expression comme « Mare Nostrum », la Méditerranée, hein, notre mer, mer M-E-R, bien entendu, hein, « Mare Nostrum ». Il parlait comme ça au temps de l'Empire romain. Donc, ce que c'est que l'Empire, c'est je sais pas comment dire ça pour le moment, une structure, disons, qui dit tout ça là, les terres qui sont autour, c'est notre mer, c'est nous. Donc là, j'ai quelque chose d'un peu consistant pour définir qu'est-ce que ça veut dire nous. Bon. Et ce Nostrum, Mare Nostrum, a finalement était lié, comme on le voit dans certains textes médiévaux qui reprennent l'expression « Mare Nostrum » au latin, etc. Donc cette expression a été liée par une série de textes, je passe les médiations, à la notion d'Occident. Donc je parle depuis une ère de pensée qui s'est à un moment définie autour de la Méditerranée, mais sur un mode impérial, et qui s'est appelée finalement, Occident. Donc, je pourrais dire, je pense depuis l'Occident. Les humains qui parlaient, j'ajoute un point, les humains qui parlaient le latin, qui disaient Mare Nostrum, auront par ailleurs trouvé de leur droit de lier dans la définition de la propriété ces deux mots, usus et abusus. Donc, je parle après des gens qui ont dit Mare Nostrum et qui ont fait droit de la formule usus et abusus, qui définit la propriété. Qu'est-ce que c'est que le droit de propriété? C'est pas la même chose que la possession. Le droit de propriété, c'est le droit d'user et d'abuser. C'est pour ça que tout à l'heure, vous me souvenez, j'avais souligné que je lâchais dans mon propos le mot abus. Bon. Ce droit de propriété est resté en vigueur bien après le monde romain, bien après l'effondrement de l'Empire. Et Proudhon, justement, le discute avec véhémence au mi-temps du XIXe siècle. Et il dit en substance, le problème, c'est que nous en sommes toujours au droit romain, en matière, en tout cas, de propriété. Usus et abusus est une formule que nous n'avons pas encore critiquée au milieu du XIXe. Je laisse chacun méditer pour savoir si elle a été aujourd'hui dépassée. J'ai tendance à penser que non. Tout le monde l'aura compris. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, usus et abusus? Usus renvoie évidemment au verbe utor, uti en latin. Uti, c'est uti, hein, c'est pas l'outil, l'instrument. Utor, uti, qu'on traduit volontiers par se servir, mais où je peux entendre aussi, pour ma part, une idée plus large de l'utile. Il s'agit d'une possibilité. La propriété vous donne le droit de vous servir de quelque chose, mais vous oblige pas à vous en servir. C'est une possibilité. Donc, usus, il y a là une utilité. Vous pouvez en faire quelque chose de ce dont vous êtes propriétaire. Il s'agit d'une possibilité. Le droit d'user signifie un droit à faire advenir quelque chose qui n'était pas déjà là. Par exemple, c'est ce que évoque Proudhon, faire pousser des arbres sur un terrain dont vous êtes propriétaire, ou construire une maison sur ce terrain dont l'usage, l'usus, vous est reconnu en droit. Alors, ça serait intéressant d'interroger les objets contemporains pour savoir si nous sommes tant propriétaires que nous croyons, vous avez compris, des objets que nous avons dans les mains, puisqu'il y a le problème des garanties, il y a le problème des traites, des crédits, enfin toutes ces choses. Donc qu'est-ce que c'est que ce droit d'usage qui nous est apparemment concédé? Enfin bref, bon, je prolonge pas, ça viendra peut-être en discussion. En tout cas, usus, c'est le droit d'user, c'est-à-dire de faire advenir quelque chose qui n'était pas déjà là, donc par exemple, faire pousser un arbre sur un terrain, construire une maison, et qui n'a pas de nécessité. Le droit d'user est lié au fait de pouvoir faire quelque chose, ajouter quelque chose, mais qui n'a pas de nécessité, puisque vous pouvez aussi bien, étant propriétaire d'un terrain, ne rien faire pousser ou ne rien construire, ou bien construire et faire venir autre chose que les exemples que j'ai pris. On dirait banalement, on est libre. Voilà. Je définirai au passage, j'en profite pour le dire, je définirai volontiers le misérable comme celui qui n'a nulle part ce droit, le droit de propriété pour lui. Le misérable est pour moi celui qui n'a nulle part de droit, à qui il n'est nulle part reconnu de droit à l'usus. Je ne parle pas de la bousus là, je parle juste de l'usus. Le misérable, c'est celui qui ne peut même pas user. Et je définirai le pauvre comme celui qui possède ou exerce le droit d'user de manière limitée. Alors, reste à comprendre, dans la formule romaine usus et abusus, l'abusé. L'abusé, ce serait, selon la traduction latine la plus convenue du verbe abutor ou abuti, user complètement, voire épuiser. C'est-à-dire, si vous aurez un dictionnaire de latin, c'est ça que vous trouverez, abutor, abusus, renvoie à usage complet. Hein, donc on est dans le bout du bout de l'activation de quelque chose, hein, ou épuisé. Mais le préfixe ab, ab, usus, signifie aussi en latin depuis ou à partir de. Si bien, et c'est d'ailleurs ce qui déclenchait la colère de Proudhon, que dans l'abusus, il peut être question de tirer quelque chose de l'usage en second degré, pour ainsi dire. Donc le propriétaire, c'est celui qui peut user, mais également abuser, c'est-à-dire tirer en plus de l'usage quelque chose, à partir de l'usage, depuis l'usage, quelque chose d'autre que le seulement usé. Et la propriété complète, depuis le droit romain, implique les deux. Il s'agit, pour le dire dans le vocabulaire des économistes, de profiter de l'usage pour y ouvrir une autre possibilité ou une autre utilité. Évidemment, on n'est pas loin des objets pervers dont je parlais tout à l'heure. Je pense que vous faites le rapprochement. Faire un seul droit de l'usus et de l'abusus, c'est lier l'usage au profit et l'utile au profitable. Le droit de propriété implique la liaison de l'usage et du profit, de l'utile et du profitable. Pouvoir dire cette liaison en latin, c'est admettre que la sorte de mal que je liais tout à l'heure à l'économie des objets de la dernière génération technologique ne trouve pas son autorisation dans la génération même, la nôtre, la récente. Ça vient de loin, ça vient de loin. Cette affaire d'objets pervers, etc., ça vient de loin. Ce qui arrive seulement aujourd'hui, pour le dire à ma façon, c'est que ça se réalise comme jamais. Soit dans une quantité, soit sur une surface. Parce que finalement, dans le temps de l'Empire romain, le droit romain est limité à Mare Nostrum. Ce qui est beaucoup pour l'époque, mais c'est encore pas tout le monde. Voilà. Peut-être que ce qui arrive aujourd'hui, c'est pas vraiment nouveau. On est toujours dans l'usus et l'abusus, hein, l'objet pervers, etc. Sauf que la taille géographique de l'opération, c'est bien plus que Mare Nostrum. Voilà. C'est-à-dire que peut-être aujourd'hui, l'abusus, c'est-à-dire autrement dit le profit, est parvenu à un niveau qu'il n'avait jamais atteint jusqu'alors. Cependant, si toute cette analyse situe le commencement d'un monde du droit où nous nous trouvons encore, hein, donc notre monde, d'où je parle, enfin, je suis dans notre monde aurait commencé, c'est la thèse que je viens de soutenir au fond depuis quelques minutes, au moins au temps de l'Empire romain, du droit de propriété et du temps où on disait Mare Nostrum. Ça, c'est le commencement. Mais j'ai lu ça dans mes lectures aussi de l'été, de l'automne. Je suis tombé sur un texte qui m'a beaucoup passionné, qui en fait est une étude sur Canguilhem, quelqu'un que j'ai connu comme professeur et qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et donc, il y a cette distinction chez Canguilhem entre le commencement et l'origine. Le commencement d'une chose, ce n'est pas la même chose que son origine. Si vous voulez étudier le commencement, par exemple, je prends l'exemple de Canguilhem de la psychologie scientifique, ben vous vous placez quelque part dans le 19e et puis vous faites l'histoire du 19e jusqu'à nous. Si vous voulez étudier l'origine de la psychologie au 19e, il faut que vous alliez voir du côté du 18e. Hein. Donc chercher l'origine de quelque chose, ce n'est pas la même chose que étudier le commencement de quelque chose. Donc, je dirais, notre monde, le monde dans lequel je me situe, vaille que vaille, il a peut-être commencé avec l'Empire romain, mais son origine n'est pas là. Les Romains, d'ailleurs, quand bien même ils ont été des initiateurs, ils ont construit, par exemple, des aqueducs qu'on n'avait jamais fait jusqu'à présent. Ils ont développé un droit impérial aussi, un droit de propriété qui n'existait pas avant, etc. Bon. Donc ils ont bien été des initiateurs, ils ont bien commencé quelque chose, mais tout en commençant quelque chose, ils n'ont pas cessé de se référer eux-mêmes à plus à une plus ancienne pensée que la leur et à une autre langue que la leur, à savoir la pensée grecque. Ils se sont autorisés et justifiés eux-mêmes d'une pensée et d'une langue qu'ils n'avaient pas, le grec. Donc, si je dis « je suis encore romain », « nous sommes encore des romains », voyez le droit de propriété, je suis obligé, pour penser tout ça, d'aller voir comment les romains eux-mêmes se sont, fondés, autorisés de quelque chose qui les précédait et qui est le grec. Alors vous allez me dire, ça n'a pas de fin, cette histoire. C'est le problème. Bon. Les Romains se sont, n'ont pas manqué de mentionner la pensée grecque et la langue grecque comme les concernant. C'était même très chic d'être dans la langue grecque quand on était romain, en tout cas à une époque. Et s'ils l'ont fait, c'est que c'était possible. S'ils l'ont fait, c'est parce qu'il y avait dans les textes que leur avaient légués ceux d'avant quelque chose d'encore pensable par eux et pour eux, traductible éventuellement pour eux, c'était possible. Eh bien, c'est dans cette possibilité-là que je me situe et que je nous situe à mon tour. J'irai pas plus loin. C'est-à-dire, je suis pas capable, je n'ai pas les connaissances pour ça. Je vais en dire un petit mot, de remonter au-delà. Donc je parle depuis un monde qui s'est constitué à l'époque romaine en se référant aux Grecs. Et notre monde, je le définis comme ça. Ce qui ne veut pas dire que c'est ça notre monde. Ça veut dire que c'est la seule possibilité que j'ai, moi, de donner sens à cette expression « notre monde ». Bon. Vous, ben vous verrez ce que vous pouvez faire. Bon. Donc je me limite à ça. Je nous limite à ça. Parce que c'est un point sur lequel Simone Veil, de nouveau, n'a pas rien dit. Et parce que d'autres livres plus récents, comme celui de Gabriel Martinez Gros, « La traîne des empires », autre livre que j'ai lu en préparant ce séminaire, ils conduisent d'une autre manière. Alors, quel livre hein? Bon. Je sais bien que c'est une limite. Je nous limite à ça. Je sais bien que c'est une limite. Et justement, en lisant et Simone Veil et beaucoup plus récemment, donc ce livre incroyable, très problématique pour moi, « La traîne des empires », je vois bien qu'il faudrait, pour penser peut-être le monde qu'on peut dire global d'aujourd'hui, avoir bien d'autres connaissances et sources de pensée que celles que j'ai. Il faudrait que j'aie une connaissance de l'histoire des mondes, arabes, des mondes des autres empires qui ont existé dans l'histoire, les hindous, les chinois, et je ne suis pas capable d'aller jusque-là, ni géographiquement, ni historiquement. Donc, ma capacité à penser le monde est limitée. Mais évidemment, c'est une fausse modestie que je dis. Je pose la question de savoir si quelqu'un est capable d'avoir une pensée mondiale. Vraiment. Hein? C'est-à-dire de faire le tour du monde de la pensée. Ça en fait des langues et des cultures. Bon. Donc je sais bien que tout ce que je vais dire est limité. Et que donc, pour être plus complet ou tendre vers davantage d'universalité, il faudrait que je sois capable de penser à d'autres sources et à d'autres origines que celles que je vais mobiliser dans ce séminaire. Ici, je vais, pour l'essentiel, impliquer dans ma réflexion, à titre d'origine, donc je ne remonterai pas au-delà, qu'un seul autre monde que le romain, tout en étant conscient qu'il me faudrait élargir ma conscience. D'une part, cette origine que j'avais impliquée n'est elle-même au fond qu'un commencement dont il faudrait savoir à son tour interroger les sources et les emmêlements culturels. D'où vient la pensée grecque, des Grecs anciens, est une question qu'il faudrait que je sache examiner à son tour. Platon lui-même nous y convie, et d'ailleurs je ne suis pas le seul, je pense qu'il faudrait que beaucoup de gens l'examinent aussi, les sources de la pensée grecque. Platon nous y convie au moins une fois. Et j'en parlerai peut-être un autre jour de cette... Les Grecs eux-mêmes nous disaient qu'ils n'avaient pas inventé le monde. D'autre part, la pensée à laquelle je m'arrêterai à titre d'origine de tout ça, a fait référence pour d'autres conceptions et pratiques de monde que celles que je dirais, donc en un sens inévitablement restreint, nôtres. Alors, si dans tout ce contexte, à mes yeux, il y a un auteur avec lequel notre monde a commencé à se définir et à se repérer, je vais donc dire qu'est-ce que c'est pour moi désormais notre monde. Si un auteur avec lequel notre monde a commencé à se définir et à se repérer, c'est au-delà d'Homère, à qui il faudrait aussi faire une part, mais je crois que Hannah Arendt s'en est chargée, pour moi, l'auteur buté pour définir notre monde, c'est Hérodote. De quoi s'agit-il chez Hérodote ? Du récit de l'histoire d'une guerre qui, ayant stoppé... Alors, notre monde commence avec l'histoire d'une guerre. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il commence mal. Mais il s'est constitué... Alors, il y en a des mondes qui commencent à partir de guerres. Enfin, je veux dire... C'est toujours embêtant d'être enregistré parce que c'est lourd de conséquences. Enfin, bon, une pensée m'a traversé l'esprit sur, disons, comment dire ça ? Un certain nombre de nations, beaucoup de nations, donc de territoires à l'intérieur desquels les gens disent nous les Français, nous les Espagnols, nous les Serbes, nous les Ukrainiens, voilà à quoi je pensais, etc. Ça commence par une guerre. Bon. Hérodote déjà. Hein ? Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le lis. Qu'est-ce qu'il y a chez Hérodote, le récit d'une guerre qui a stoppé l'extension de l'Empire perse, et qui, ayant stoppé l'extension de l'Empire perse, a renvoyé les armées de cet empire du côté du soleil levant, ça s'appelle l'Orient, hein, donc ça a créé les Orientaux et les Occidentaux, pour le dire rapidement. Voilà. Donc vous avez chez Hérodote le récit d'une guerre qui a eu comme conséquence de renvoyer les armées de l'Empire perse du côté du soleil levant et qui donc aura à sa façon acté la constitution pour nous d'un côté du monde qui donc est devenu nôtre. Ce monde devenu nôtre depuis cette affaire-là, c'est celui du soleil couchant, c'est-à-dire l'Occident. Ce que ça veut dire en latin, hein, Orient et Occident, soleil levant, soleil couchant. Ce que je lis et interroge depuis que je travaille, donc ça fait un bail maintenant, c'est autant que possible, toute une tradition qui s'est, à mon sens, peu ou prou autorisée d'Hérodote. Je pense que notre monde, l'Occident, s'est autorisé en dernière analyse d'Hérodote. Alors, je l'ai dit au passage, de côté, l'affaire d'Homère. Je trouve qu'Hannah Arendt en parle très bien, ça me suffit. Moi, mon truc, pour le dire de façon un peu stupide, c'est Hérodote. Bon. Et que l'Occident commence là. Toute une tradition s'est peu ou prou autorisée d'Hérodote, toute une tradition dans laquelle, enfin, qui fait notre culture. Soit que cette tradition s'est peu ou prou autorisée d'Hérodote, soit que, voyez Platon et sa descendance, elle ait pris en compte le texte même d'Hérodote, soit qu'elle ait entériné le sujet, à savoir l'issue de la guerre que ce texte relate. Voilà. Alors j'avais mis une note de bas de page pour dire que la rupture de l'Orient que je lis donc, avec l'Orient, pardon, que je lis comme constitutif de l'Occident, qu'est-ce que c'est que l'Occident ? C'est une notion qui ne peut pas s'entendre avec l'Orient, en tout cas qui a commencé à se définir en repoussant l'Orient avec, au fond, cela, c'est pas nous. Voilà. Qu'il retourne du côté de l'Orient. Alors, je notais en note de bas de page que ce qui s'est passé pour la constitution du monde grec, autant relaté par Hérodote, c'est peut-être d'une certaine manière reproduit au temps du monde romain, avec l'histoire de Carthage, la destruction de Carthage, c'est-à-dire une façon de dire ce qui vient du Maghreb, c'est pas nous. Voilà. Méditer sur les enjeux contemporains encore de tout ça. Pour dire autrement ce que je viens de dire, ce que je lis et interroge, ce sont des auteurs, des autorisations de pensée et des autorités qui se sont produits depuis l'événement qui reste pour nous sous le nom d'Hérodote, dans la part de monde qu'il a lui-même, dans une certaine mesure, fait naître. Et quoi qu'il soit possible de discuter le fait que Paul de Tarse, parce qu'il est hébreu d'abord, et que les Hébreux ont un autre démêlé que les Grecs avec la Perse, quoi qu'il soit possible donc pour cette raison de discuter le fait que Paul de Tarse appartienne de plein pied à la tradition ouverte par l'autorité Hérodote, donc autrement dit la question c'est à voir, est-ce que Paul était un Grec, un Romain grec, ou est-ce que c'est plus compliqué, c'est un Hébreu grec romain? Ça commence à devenir... Donc il y a peut-être une partie qui échappe à notre monde dans cette pensée-là. À lire, on verra. Donc peut-être il est possible de discuter le fait que Paul de Tarse appartienne de plein pied à la tradition du monde occidental tel que défini à partir d'Hérodote. C'est tout de même comme ça que je vais le lire. Je vais le lire comme un auteur qui écrit le grec au temps des latins, et qui, écrivant ainsi en grec, peut bien, le cas échéant, pas toujours, mais parfois quand même, activer des mots que la tradition issue d'Hérodote a mis en jeu. La tradition issue d'Hérodote, c'est Platon, c'est Aristote, puisque, etc., etc. Bon. Il est en ce sens permis de lire Paul de Tarse comme on lit Platon, Aristote, les stoïciens et bien d'autres encore. Autrement dit, d'en faire un auteur pour nous. Thématiquement, ce que je vais retenir dans les séances suivantes, dans les textes de Paul, c'est ce que Agamben... dernier point de l'introduction de ce soir. Excusez-moi, j'ai oublié de faire l'annonce. Thématiquement, ce que je vais retenir dans les textes de Paul, c'est ce que Agamben reconnaît comme étant l'invention de Paul. Alors, je vous le dis en grec, la pistis, qu'on traduit conventionnellement par foi, ou croyance, ou conviction peut-être. Bon, pistis, mettons foi, c'est la traduction la plus fréquente, la plus convenue. Hein. Donc, faut avoir la foi. Vous voyez, ce genre d'expression, ça, on l'entend encore aujourd'hui. Hein, pour, étant donné le désastre du monde, faut avoir la foi. Pour faire quelque chose là-dedans. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, la foi ? Eh bien, là, vous avez un auteur dont je viens d'essayer de vous montrer qu'il appartenait bien à notre tradition occidentale, qui dit, la foi, pistis, mot-clé dans les textes de Paul. Donc voilà, je le lis pour savoir. Bon. Je vais retenir dans les textes de Paul ce que donc Agamben, de son côté, aussi reconnaît comme étant l'invention de Paul, la notion de pistis, de foi, l'utilité d'une foi qui, n'ayant pas pour elle une donnée rationnelle, est a priori improbable. Alors c'est un grand argument de Paul. Qu'est-ce que c'est que la foi ? C'est-à-dire si c'était plausible, si c'était argumentable, ça ne serait pas une foi. Ça serait une donnée rationnelle, une donnée explicable. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une improbabilité qui est consubstantielle à la notion de foi, de croyance, au sens de Paul, bien sûr. Cette foi, pistis, aura d'abord concerné la possibilité pour chacun de se trouver justifié par un principe de conduite au fond moins partiel, moins occidental, si vous voulez, que ceux qui régissent le monde, à la fois romain, hellénistique et hébreu, dans lequel Paul évolue. Donc, pourquoi Paul est un auteur sur lequel on revient souvent, je suis en train d'en donner, à ma façon en tout cas, l'explication, c'est que c'est un auteur occidental, d'une certaine manière. Il appartient à la tradition gréco-romaine, il parle le grec, enfin, etc., etc. Il y a des mots qui sont des mots de Platon, il y a les mêmes tournures de Platon qu'on voit à l'occasion, il y a des... Bon, mais manifestement, il appartient donc à la, au monde occidental issu de... Et en même temps, il fait jouer ou fait venir un concept et il parle pour un monde catholique, c'est-à-dire qui dépasse les frontières du monde occidental a priori. Voilà. Bien. Je crois que je saute un passage parce que je n'en vois plus vraiment la nécessité à l'instant. Donc, il va s'agir en étudiant la pistis, la foi paulinienne, d'étudier les chances de signifier de formules comme celle que je vais vous dire, que je produis moi-même afin de faire comprendre mon sujet. Hein. Donc c'est ça que je vais chercher à faire dans les séances qui viennent, comprendre des formules comme celle-ci, un peu lourdes, mais vous allez, je pense, comprendre. Je suis par croyance, parfois, concerné par un monde qui n'est pas celui où je me trouve. Est-ce que nous pouvons nous dire ça, nous qui nous demandons quoi faire dans ce monde qui ne va pas bien. Voilà. Est-ce que nous sommes par croyance, au sens de Paul, concernés par un monde qui n'est pas celui où nous nous trouvons? Qu'est-ce que ça voudrait dire une phrase comme celle-ci aussi? J'ai foi en un monde qui n'a pas lieu. Pas encore ou pas. Voilà. Pareille formule, considérée en elle-même, hors de leur signification en substance chez Paul, n'implique nullement que le possible auquel elle pense soit chronologiquement probable. Voilà. Elle l'estime seulement pensable sur le mode d'une foi et, j'y reviendrai, d'une espérance. Donc c'est ça que je voudrais creuser petit à petit, enfin creuser mon mot... C'est-à-dire que le monde auquel nous renvoie quelque chose comme une foi n'est pas un monde qu'on puisse dire probable chronologiquement, c'est-à-dire dans 10 ans, dans 15 ans. On ne peut pas faire de prévision. Hein, on n'est pas dans une gestion du temps. Je reviendrai beaucoup sur cette affaire de gestion du temps. On est dans un autre rapport au temps, j'en reparlerai. Hein, la foi, en tout cas telle que je la lis, le pistis, telle que je comprends ce concept chez Paul, implique un rapport au temps qui n'est pas fait de probabilité. Voilà. Et pourtant, ça tient ceux qui sont concernés par cette foi, hein, à la fois, comme vous verrez, dans le monde et dans un autre monde que ce monde-là. Voilà. Je pense que cette situation a pour nom espérance. Et il va falloir qu'on s'explique là-dessus qu'est-ce que c'est que espérer. De quoi s'agit-il quand l'espérance est de l'ordre d'une foi, et d'ailleurs peut-être qu'elle ne peut être que ça, l'espérance, de l'ordre d'une foi, hein, qu'autrement, justement, on est dans des calculs de prévisibilité, etc., et ça nous fait espérer rien. La prédiction probable, etc., quel espoir ça ouvre? Quelle espérance ça ouvre? Peut-être que pour qu'il y ait espérance, il faut être dans un, je ne sais pas comment dire ça, ce n'est pas un régime de pensée, une situation de pensée qui n'implique pas le probable. Donc de quoi s'agit-il quand l'espérance est de l'ordre d'une foi? Et si je peux ajouter, pour citer ma lecture à quelque distance des lectures plus orthodoxes de Paul, de quoi s'agit-il quand cette foi ne concerne rien de céleste, ni de divin ou de surhumain, quand donc elle se cantonne à l'humain? C'est-à-dire, ma question, enfin, c'est pas la peine de faire toutes ces phrases pour en arriver là. Qu'est-ce qu'on peut espérer de nous? De nous, humains, hein, sans que nous ayons à nous dépasser sur humains, célestes, etc. Hein. Quelles sont les conditions de possibilité d'une espérance pour des humains qui ne se dépassent pas eux-mêmes, qui ne dépassent pas leur humanité? Est-ce que c'est quelque chose, pardon, est-ce que c'est à quelque chose de cet ordre que nous sommes conviés dès lors que nous sommes pressés de penser, en toute apparence au moins, que le monde n'est plus fondé à durer comme il dure actuellement. En fait, je pense que non, ce qui nous agite la pensée, ou en tout cas ce qui nous fait parler, ces temps-ci, il y a peut-être quelque chose qui manque, que je commence à nommer espérance. Voilà. Et peut-être parce que, je ne sais pas, il y a trop de probabilités autour de nous, ou trop de gestion du temps autour de nous. Bref, est-ce que l'espérance, c'est quelque chose de cet ordre que nous sommes conviés dès lors que nous sommes pressés de penser que le monde n'est plus fondé à durer comme il dure actuellement? Mais qu'est-ce, encore une fois, que ce monde? L'article qui le met en place dans la langue française s'entend comme générique. Le monde n'est plus fondé à durer, nous dit-on beaucoup aujourd'hui. Mais est-ce que c'est vrai que c'est le monde? Qu'est-ce que ça veut dire, cet article défini? Est-ce que ce n'est pas plutôt un monde qui n'est pas fondé à durer? Est-ce tout monde qui n'est pas fondé à durer, ou seulement celui qui peut être dit nôtre? Autrement dit, est-ce que nous ne sommes pas dans une situation dans laquelle peut-être prend fin le monde occidental ouvert autant d'Hérodote, enfin, etc., etc., et que c'est à ça qu'il faut qu'on pense. Nous, bien que nous soyons dans ce monde-là, il faut peut-être que nous pensions la fin de ce monde-là, la fin du monde, pas la fin de tout le monde, mais la fin de ce monde-là. Et je pense que lire Paul pour examiner les conditions de cette question, c'est une bonne chose. Si je ne l'avais pas pensé, évidemment, je n'aurais pas préparé le séminaire que j'ai préparé. Donc, je m'arrête là pour ce soir. Décidément, qu'est-ce que ça veut dire, nous ou notre monde? Vous verrez au cours des séances suivantes que ce « nous », c'est un mot qui est très fréquemment prononcé par Paul, et que le lire, c'est aussi une façon de rester sur la question. Bon, voilà. C'est comme, je dirais, comme toujours, une fois que j'ai fait ce que j'ai fait, je me dis « c'était trop compliqué ». Bon, mais bon. C'est fini. C'est fini pour ce soir. Je reviens dans 15 jours quand même avec le moral.
Merci.
Donc, on discute tant que vous voulez, évidemment.
Moi, j'avais une question. Je sais que ça sera une discussion sur les corps de ton propos, mais à un moment, j'avais une question sur est-ce que tu allais aller dans le monde grec jusqu'à ceux qu'on appelle les philosophes pré-socratiques qui sont un peu remis à la mode sur les questions d'écologie dans pas mal de textes, propos. Tu y as répondu en expliquant que c'est à Hérodote que...
J'ai répondu... Je coupe, excuse-moi. J'ai répondu en disant mes limites. Les pré-socratiques, je ne connais pas.
Tu y as répondu aussi en disant que c'était à partir d'Hérodote qu'un monde occidental oriental se construisait. Je voulais demander s'il y avait une autre raison. Peut-être que tu n'allais pas jusqu'aux pré-socratiques, et ta réponse, c'est que tu les maîtrises pas.
Qui serait une raison secrètement polémique, parce que ces auteurs reviennent dans l'actualité, et que je ne voudrais pas...
Non, mais non. Que cette remise au bout du jour n'est pas complètement justifiée
Non, je pense que si j'avais pensé une chose pareille, je vous l'aurais dit. Je l'aurais dit. Je l'ai dit en passant, c'est une incompétence. Ma culture, la culture qui me permet de dépasser quand même un petit peu mon cas et de dire un petit peu nous, s'arrête à Hérodote. Autour et avant, je ne suis pas compétent. Ce n'est pas que je suis complètement ignorant, mais je ne suis pas compétent. Ce n'est pas non plus que je sois forcément complètement compétent pour parler de ce dont je... Mais quand même, je me sens autorisé. Voilà. Alors que je ne me sentirais absolument pas autorisé à parler des pré-socratiques, toute polémique mise à part.
C'est dommage parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se sentent autorisés et qui, à mon avis, ne sont pas très compétents. Alors, du coup, j'avais des questions et moi, je ne suis vraiment pas du tout compétente. Voilà.
Oui. Je pense quand même que si vous avez la patience de rester jusqu'à la sixième séance, je pense, je me dis ça, pour m'encourager moi-même, quand même, vous direz, il a travaillé. C'est-à-dire, les textes dont je vais parler, je les ai lus. Je parle pas par oui-dire. Voilà. Bon. Alors après, chacun fait ce qu'il peut.
Juste une précision, parce qu'à un moment, tu as dit que l'abusus, autrement dit le profit, c'est comme ça qu'il faudra entendre l'abusus, parce que j'imagine que tu vas plutôt revenir sur l'abusus que sur le profit. Mais c'est comme ça qu'il faudra l'entendre aussi.
Alors, nous, à la suite, oui, parce que je sais, puisque nous avons discuté il y a peu, que tu contesterais un peu cette lecture de abusus, c'est ça, du droit de propriété.
Ah non, non, c'est juste pour être... ça serait plus sur le... Non, ça serait...
Je me suis abrité, ouais, sous l'autorité de Proudhon, oui, et de Simone Veil, qui d'ailleurs sur ce point, quelque part, je ne sais plus où, mais quelque part, cite Proudhon, et pour le même sujet. Et je suis à peu près sûr que la définition d'abusus, chez la façon dont Proudhon entend abusus, c'est ce que je vous ai dit ce soir. Donc, je trouve que c'est une interprétation autorisée.
On pourra l'entendre au sens de profit, donc.
Oui. Oui. C'est-à-dire, pas seulement... c'est difficile de dire ça. C'est-à-dire, l'usus, tel qu'en tout cas le comprend Proudhon, c'est celui de quelqu'un qui n'est pas forcément propriétaire du terrain qu'il met en valeur. Il fait pousser des arbres, il plante, enfin bref, il construit, il met en valeur, il crée de la valeur, on pourrait dire, dans un langage un peu plus, j'allais dire, un peu plus marxiste. Et le profit, c'est quelqu'un qui n'a pas créé cette valeur, qui profite de la création de valeur pour son propre compte. Ça, c'est la bouzouz.
Et justement, sur ça, j'avais une question. Tu as distingué la propriété de la possession. Et du coup, comment tu...
J'ai emprunté ça de nouveau à Proudhon. Hein. Donc la possession, c'est... je ne suis pas propriétaire de cette montre que j'ai dans la main. Je la possède simplement. Je l'ai acquise et je me la mets au poignet si je veux ou pas. Il n'y a pas de valorisation concernant cet objet du fait que je le possède. Il est seulement en usage. Donc il n'est pas lié, l'usage que j'en ai n'est pas lié à une problématique éventuelle de la bouzousse. Tandis que si je suis commerçant et que je te vends, que je veux te vendre cette montre, pour le moment, j'en suis propriétaire, mais en te la vendant, je vais faire un bénéfice pour moi. Donc là, je ne suis pas dans le régime de la possession, je suis dans le régime de la propriété. Enfin, je pense que Proudhon comprenait les choses comme ça. Et il a dit, parce qu'on lui a la fameuse phrase « la propriété, c'est le vol », il dit dans un texte tardif... mais j'ai jamais dit la possession, c'est le vol. Donc il invite à penser que posséder et être propriétaire, c'est pas la même chose. Ça n'a pas le même fondement en droit. Et le fondement en droit de la propriété, plein de gens, même encore contemporains, nous disent le fondement en droit de la propriété, c'est les Romains. Et j'ai mis une petite note que je vous ai pas lue, mais je veux dire, le droit, une grande partie de notre droit, c'est l'empire de Napoléon. Mais Napoléon, c'est empire par citation des Romains. Donc, et la Révolution française, dont une grande partie du droit contemporain, enfin, comment est-ce qu'on appelle le droit civil, etc., sont les héritiers, que je sache, je peux me tromper, mais je crois bien que c'est ça. C'est quand même quelque chose qui s'est fait en référence aux Romains. C'est ça que j'ai voulu dire dans mon exposé de ce soir. Même ceux d'entre nous qui parlent pas ou qui ne lisent pas le latin, etc., sont quand même des latins par plein de petits éléments du droit avec lequel nous vivons.
J'avais juste une question. C'est pour les objets pervers, en fait. Je me posais la question. Pour vous, du coup, c'est juste des objets qui avancent masqués.
C'est juste des
objets qui avancent masqués.
ça serait... Vous avez fini votre question ou...
ouais, ouais.
Parce que j'entends des points de suspension, donc non. Je ne vous coupe pas la parole. Qui savent se masquer, c'est ça que vous me proposez.
Oui, en fait, je me posais la question parce que vous disiez finalement, quand vous parliez du mobile, enfin du smartphone, que c'était vraiment la quintessence de l'objet pervers, de ce que je comprenais. Et en fait, finalement, je réfléchissais, je me disais en quoi est-ce que la télévision l'était moins, ou pourquoi cet objet était particulièrement pervers. J'ai bien compris parce qu'il utilise des données, etc. Mais finalement, tous les objets qui. Enfin, c'est le principe de la communication, du marketing, depuis bien longtemps. L'idée, c'est d'utiliser quelque chose contre notre gré. Donc, je me posais la question de. Pourquoi cet objet particulièrement ? Est-ce que c'est pas juste une histoire de contexte ? Et qu'en fait, une fois qu'on a qu'un contexte est épuisé, c'est-à-dire la télévision, une fois qu'on a compris, on invente un nouvel objet qui finalement est plus malin que le précédent. Quoi.
Mais que les objets soient munis d'apparence. Et qu'ils le soient munis d'apparence pour nous charmer, nous séduire, nous avoir, dans une certaine mesure. Oui, ça date pas. Il me semble quand même. Alors là, il faudrait reprendre par le détail l'analyse que j'ai essayé de proposer dans La tentation du service. Alors c'est un passage, comme toujours, est-ce que je fais un peu. C'est rude, quoi. Mais bon, je vois pas comment. Évidemment, tout ça, c'est compliqué parce que c'est essayer de faire, de proposer des idées qui sont pas forcément dans le courant, quoi, dans le courant des idées. Alors c'est difficile d'expliquer ça. Il me semble qu'il y a quand même dans les objets de la dernière génération quelque chose qui avait pas dans ceux d'auparavant. L'exemple que je prends dans le livre, c'est celui-ci. Dire l'automobile, ça a déjà une double fonction. Ça me sert à me déplacer, donc c'est la fonction d'usage. Hein, avec ça, on peut se déplacer facilement. Et c'est tentant de se déplacer facilement. Et d'ailleurs, ça explique qu'ils en soient vendus tant de par le monde, etc. Et puis, ça a une autre fonction qui n'est pas une fonction d'usage, enfin, qui n'est pas que une fonction d'usage, qui est une fonction essentiellement économique. C'est que pour que le moteur de l'automobile fonctionne, il faut qu'il y ait de l'essence. Autrement dit, il faut que ce moteur soit articulé à un réservoir qu'on remplit régulièrement. Et il y a une pompe, et derrière la pompe, il y a toute l'industrie du pétrole, etc. Donc cet objet a déjà une double fonction. Mais ce n'est pas pervers, parce que même si ce n'est pas extrêmement manifesté, quand même sur la carrosserie de l'automobile, il y a un petit trou, un réservoir, et pour user de ma voiture, il faut bien que je m'arrête, et j'en suis conscient, à la pompe, pour remplir, etc. Donc la fonction économique, elle n'est pas totalement disparue dans l'objet même. Alors que je pense, la récolte des données d'utilisation de nos téléphones, c'est ça qui est pervers. C'est-à-dire il n'y a pas l'équivalent du réservoir avec son bouchon.
À chaque fois qu'on va sur Internet, on nous demande si on veut.
Non, alors, j'ai cité ça dans mon livre. J'ai
l'impression qu'on va faire voilà. Bouchon, mais en fait, il y en a un.
Ouais, alors, après, il faudrait voir avec les spécialistes et il faudrait s'assurer que la demande. Oui, je clique en disant je n'autorise pas. Qu'est-ce qui se passe au juste ? Je n'en sais rien. Moi, l'utilisateur, je n'en sais rien. Est-ce que c'est un bandeau d'affichage ? Est-ce que c'est. Je pense que c'est quand même assez compliqué. Et ensuite, est-ce que vous pouvez, quand vous utilisez la géolocalisation de votre smartphone, pour vous repérer sur la route, en fonction le mapping, là, est-ce que vous pouvez refuser que les données de votre géolocalisation soient collectées par le fournisseur de services ? Non, vous ne pouvez pas, parce que si vous refusez, vous ne pouvez plus vous servir. Bon, il y a une obligation dans l'affaire, et c'est ça que je trouve pervers. Et je pense que c'est quand même... Vous avez raison, que ça n'a pas exactement commencé, c'est un peu schématique de dire que c'est que les objets de la dernière génération. Mais bon, il y a quand même là quelque chose qui se passe d'assez massif, et on pourrait dire de profitable comme jamais. C'est-à-dire qu'en fait, l'accumulation de capital qui résulte de ça... C'est quand même gigantesque. Il y a a pas de problème de déficit des caisses de retraite si on prélève un tout petit peu chez Google. Hein.
Mais je pense que ça se sent même dans la conception, en fait.
Pardon ?
Je dis quand on doit concevoir une voiture, enfin, je veux dire, même dans, du côté où je vois, quand on commence à travailler avec le numérique et tout, il y a des choses dont on n'est même pas conscient quand on le dessine. Donc c'est là où on peut vite se perdre aussi, puisqu'on ne va pas le rendre perceptible si on n'en est pas conscient nous-mêmes. Quoi.
Oui, bien sûr. Donc c'est si on est joué,
plus,
si on est.
Ouais, je veux dire, oui, même c'est... être conscient, enfin, jouer à son rôle, je trouve.
Oui. Ah ça, c'est des, oui, c'est des questions. Mais c'est, moi, j'ai cité ça pour, malgré Adrien, pour un petit peu critiquer Agamben. Je vais pas chercher du côté du jeu, parce qu'en fait, je pense effectivement, nous sommes joués. Enfin, je l'ai dit, hein, je pense, un moment dans la soirée. Hein. Et comment... ouais. En tout cas, s'il s'agit de désactiver ça, donc est-ce qu'on peut jouer le jeu, mais au sens, pas jouer le jeu, au sens premier du terme, c'est-à-dire jouer le joueur, c'est-à-dire l'avoir, lui. Moi, j'ai pas la clé. Hein.
Moi, j'avais une autre question. C'est cette façon d'envisager le monde à partir de probabilités et qui ferait qu'on plus d'espérance. Est-ce que ça correspondrait d'une façon ou d'une autre pour toi à cette injonction qu'on entend aussi, nous disant soyons réalistes. Est-ce que ça aurait un rapport avec une branche ou une acceptation du réalisme?
J'ai pensé à quelque chose au début de ta question et j'ai manqué. Est-ce que tu veux bien...
Est-ce que cette façon d'envisager le monde que tu décris et qui ne nous permet plus tellement d'avoir d'espérance, ça correspondrait d'une façon ou d'une autre pour toi à un réalisme, c'est-à-dire une injonction qui nous dirait soyons réalistes, comme en toute fin, enfin, comme en contact avec Action, il a l'air d'être...
Ce que j'essaierai de justifier par la suite, si le fait de lire une autorité suffit à justifier quoi que ce soit, ce qui n'est pas sûr, mais en tout cas, c'est comme ça que je peux travailler moi. Je lis des textes qui me donnent à penser. Après que ça me donne à penser, je fais ce que je peux pour que ça vous donne à penser. Mais donner à penser, ça ne veut pas dire prouver. Je ne sais pas si j'arriverai à prouver quoi que ce soit. De toute façon, c'est suspendu à des formules d'autorité ou d'auteur qui donnent à penser, mais est-ce que c'est vrai, etc. Bon. En tout cas, j'essaierai de donner à penser que pour quelque chose à quoi le mot d'espérance pourrait convenir existe, hein, quelque chose qu'on pourrait vraiment appeler espérer. Il faut pas. Enfin, la condition peut-être de ça, c'est que on soit pas dans une version chronologique. Voilà. Ça implique une façon d'être au temps qui ne fait pas du chronologique l'alpha et l'oméga de la temporalité humaine. Alors ça peut se dire autrement, mais tout ça, ça veut dire qu'il puisse se présenter des occasions, qui soient d'ailleurs des occasions heureuses, voilà. Peut-être que... et en tout cas, ça ne rentre pas dans une logique de prévision. Ouais. Si je dis « j'espère que demain il fera beau », ça veut forcément dire, il me semble, je crains que demain il ne fasse pas beau, mais j'espère qu'il fera beau. Et donc, ça rend quand même compliqué. Bon, Météo France vous dit, demain il fait beau, ils savent. Voilà. Alors, est-ce que ce rapport au temps qui est toujours anticipé, donc c'est ça que j'appellerais la chronologie, la chronologique, est-ce que c'est compatible avec le fait d'espérer voilà. Et est-ce qu'on peut faire quelque chose dans l'urgence si on n'espère pas? Peut-être que si on n'espère pas, ce qu'on peut faire dans l'urgence, c'est en rajouter sur ce qui fait qu'il y a urgence. Ouais, c'est un peu ça que j'ai dans la tête. Voilà. Il faut l'ancrer un petit peu. Je ne sais pas si j'ai répondu. Mais...
Si. En fait, indirectement, je te demandais de dire un peu à l'avance ce que tu diras.
Ouais, c'est non, en tout cas, j'ai contourné le mot réalisme. Mais c'est pas que je l'ai pas entendu, c'est que je pense qu'il y a. Enfin, l'injonction au réalisme. Je vous ai lu l'exergue de Victor Segalen. Le réel, c'est pas ce qu'on imagine comme réel. Or, les prévisionnistes sont, il me semble, forcément dans le registre de l'imagination, ou suscitent de l'imagination. C'est comment sortir de ça, d'une certaine manière, que je cherche à réfléchir.
Est-ce que tu comptes revenir sur la distinction faite en passant vie courante, vie réelle ? Vie courante, vie réelle.
J'ai fait ça en passant ?
Oui.
Et je ne m'en suis même pas aperçu. Alors, remets-moi dans l'ambiance.
Bon, bah, je pourrais pas le faire bien précisément, mais en tout cas, tu as dit en passant que la vie réelle, ce n'est pas la vie courante.
C'était tout au début ?
Au tout début.
Ah oui, d'accord. Alors, tu veux que je précise ça ?
Oui.
Bah, la vie courante, elle est... Il va y avoir quelque chose qui va occuper beaucoup les séances suivantes, c'est la distinction qu'on peut lire chez Foucault, mais que j'ai, je pense, mieux comprise ou commencé à comprendre en lisant la lecture de Foucault par Agamben. Donc je me distingue d'Agamben sur certains points ce soir, mais je tiens beaucoup à ses textes et à sa lecture. Et donc, il me semble qu'il y a, en tout cas chez Agamben, finalement, je ne sais pas si c'est chez Foucault, comme Agamben dit que c'est, mais en tout cas, il le dit, une distinction entre la subjectivation et le sujet. Le sujet subjectivé et le sujet... Donc subjectivé, nous le sommes, par exemple, si je dis « je suis français »,« je », c'est le sujet, grammatical et peut-être psychique, disons, mais « français », c'est une subjectivation de « je », et je ne suis pas que français, en réalité. Je suis français, mais si je dois dire le « je » que je suis, « français » n'est pas un adjectif suffisant, il en faut bien d'autres. Je suis, je suis un homme, puis après je vais dire, oh là là, ça c'est compliqué, quel homme je suis, qui le sait, etc., etc. C'est-à-dire que le sujet réel, c'est pas le sujet qualifié avec des, en l'occurrence, des mots courants qui sont devenus dans le courant du langage, qui sont de l'ordre de la subjectivation. C'est-à-dire, si je suis dans une espèce... Alors, il n'y a pas que de l'angoisse, j'en parlerai. Il y a des grandes joies, je crois, aussi, dans tout ça. Mais il peut y avoir aussi des moments angoissants où le sujet... mais où j'en suis, mais qu'est-ce qui m'arrive, mais qu'est-ce que... Bon, il peut y avoir ce genre de choses. Pour éviter l'inquiétude quant au sujet que je suis, j'accepte des subjectivations. Voilà. Et d'ailleurs, mon nom... est une subjectivation. Mon nom et mon prénom est une subjectivation. Je ne l'ai pas choisi. Je fais avec depuis que je suis né. Et Dieu sait si c'est compliqué. Non. Et il n'y a pas que moi, à mon avis, qui suis dans cette situation. Donc c'est ça que j'ai, pour le dire tout à fait autrement, c'est ça que je vois dans la distinction. Je trouve très beau le texte de Victor Segalen entre le réel et l'imaginaire. l'imaginaire est du côté de ce que j'appelle, ce que Agamben me fait comprendre chez Foucault sous le nom de subjectivation. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du sujet, foncier, fondamental, qui n'est pas subjectivé, mais qui peut-être ne se manifeste jamais. Je pense que pour beaucoup d'humains, le sujet que chacun est ne se manifeste pas, même à ses propres yeux.
Mais ce sang.
Ce sang ?
Ce sang, oui. Parce que si le sujet est réel, j'y suis pris tout d'un coup et ne sens plus que lui.
C'est une citation, ça ?
C'est la citation de Ségalen, si je me trompe pas.
Attends.
J'ai peut-être mal noté.
Oui, il faut vérifier, parce que là, j'ai un doute. Oui. Je, une fois moi parti pour le L, j'y suis pris tout d'un coup et ne sens plus que lui. Oui. Le réel. Et alors, c'est quoi la question ?
Là, parce que tu parlais du sujet réel.
Oui.
Et tu disais peut-être qu'il ne se manifeste jamais.
Oui. Mais ça veut dire à ce moment-là...
Mais peut-être qu'il... Et pourtant, là, il dit, j'y suis pris tout d'un coup et ne sens plus que lui. Alors, il ne parle pas du sujet réel, mais en tout cas, il parle du réel.
Je ne sens plus que lui. Du verbe sentir.
Oui.
D'accord.
Oui.
Mais je sais pas où est la question.
Est-ce que c'est pas une manifestation du sujet réel, sentiment.
Si. Quand le sujet se manifeste, c'est dans cet ordre-là, ce pourquoi le mot sentiment et le verbe sentir peuvent convenir. C'est quelque chose qui est de l'ordre, pas du logos, autrement dit. Pas du discours, donc on n'est pas dans les phrases, on n'a pas les mots pour le dire, etc. C'est quelque chose qui est, donc, si je suis ce texte-là et d'autres. Dans la phrase de Ségalen, ça commence par péripétie. C'est-à-dire, ça n'arrive pas toujours. La péripétie, dans les théories du théâtre antique, etc., c'est ce qui est secondaire dans la conduite des actions, des péripéties. Donc, ce sont des cailloux rencontrés sur le chemin, mais qui ne changent pas la route foncièrement, péripétie. Et en fait, je pense que ce que dit Ségalen, c'est que lorsque le réel, et c'est pourtant fondamental que le réel me vienne, ou que je sente le réel que je suis, ou la réalité, etc., il faut quelque chose qui est, en fait, pour la plupart des temps de la vie, une péripétie. C'est-à-dire quelque chose, juste un caillou sur la route. Voilà. Quelque chose qu'on n'attendait pas, qui va faire basculer. Voilà. Et je tiens beaucoup à ces petites choses qui nous mettent le réel, qui nous mettent au réel. Voilà. Et qui sont pas dans les grandes phrases, quoi. Qui sont pas dans les. Je vais parler de ça, ouais, beaucoup. Oh. Ça y est, c'est fait, c'est pas la peine. Est-ce que j'ai répondu ?
Oui.
Bon.
J'ai une question qui peut-être, qui renvoie au séminaire de l'année dernière, mais que j'ai encore en tête, parce que c'était il n'y a pas si longtemps, et qui comment est-ce que tu, enfin ça commence à s'articuler justement dans mon esprit, mais est-ce que tu peux toi le faire articuler le désir et l'espoir? Et l'histoire.
Alors, est-ce que je peux dire joker et
répondre la prochaine fois
et dire je vais garder cette question.
Tiens-toi.
articuler le... Ouais, je pense que c'est... c'est fondamentalement ce qui me travaille. Mais trop pour que je puisse répondre tout d'un coup comme ça, sans avoir prévu le coup. Je ferai un effort.
Mais je ne regrette pas d'avoir posé des questions non, comme non, ça la fois non. d'avant, parce que les réponses étaient intéressantes après.
Je pense que la question, c'est de réfléchir ou de savoir si le désir, comment dire, a des objets a priori, est-ce qu'il est assigné, est-ce qu'il est assignable? Non, c'est trop compliqué pour ce soir. Je note la question.
On n'a pas eu de question de personnes qui sont à distance. Mais si, on n'a pas.
Il n'y en a pas à distance non plus.
Non, tu as eu quelques messages.
J'arrive pas à voir, moi. Je ne suis pas sur l'œil avec lequel. Bon, ben, c'est très bien.
On part pour la prochaine.
On s'arrête là.
Ah, il y a quelqu'un qui a crié, on va voir. Antoine Delinotte qui dit cet obscur objet du désir. C'est plutôt.
Bah.
Ben, on se dit, enfin pour celles qui ne sont pas là, on se dit au revoir et par hypothèse, dans 15 jours, on se retrouve. Voilà. Bon.
Merci.
Merci beaucoup.
Un message de Rudy Bord qui te dit qu'il t'appelle bientôt.
Oui, c'est ça qu'il faut que je regarde.
Tu vois, c'est dans les notes. En fait, ici, tu as des notes partagées. Et je crois qu'il y a Antoine qui t'a écrit un mot, qu'il n'a pas signé, mais je crois que c'est lui.
Okay. Est-ce que tout ce qui était là que j'ai enlevé, les gens.
Là, ils disent au revoir, eux. Il y a plein de gens qui disent au revoir dans.
C'est ça, c'est
oui.
La discussion publique. Ah oui.
Il n'y a pas une question.